Allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'UM et de ses partenaires. Nous nous sommes tous déjà retrouvés en grande discussion avec une personne très en colère, ou très ivre, qui sous le coup de l'émotion ou de l'alcool a sorti chacune de ses paroles d'une armée de postillons, contre laquelle votre seule défense consiste à plisser fortement les yeux tout en esquissant un petit mouvement de recul. Une expérience désagréable sur le plan sensitif, mais aussi une forme d'intrusion, comme si votre interlocuteur ne faisait pas que vous envoyer un mélange d'eau, de protéines et d'ions. C'est la composition de la salive, sachez-le. D'ailleurs, savez-vous que le terme postillon vient de l'italien postiglione, autrement dit poste, au sens d'un ancien attelage avec des chevaux servant à convoyer des voyageurs. À première vue, un sens assez éloigné de nos projections salivaires, et pourtant, ces gouttelettes transportent elles aussi des voyageurs. Souvenez-vous du Covid et de nos angoisses quand une de ces bombes liquides venait s'écraser sur nos visages. Oui, les postillons sont d'excellents véhicules pour les virus. Mais sont-ils les seuls à profiter de ce moyen de transport rapide et gratuit? Non, les bactéries peuvent-elles aussi être aéroportées comme c'est le cas pour la tuberculose. Ces aérosols, notre invitée en a fait l'objet de son dernier papier, publié dans la revue Journal of Aerosol Science. Elle est chercheuse CNRS biophysicienne au Centre de biologie structurale, le CBS, et elle fait également partie des 8 lauréates et lauréats du programme Impulse Science, décerné par la Fondation L'Oréal en novembre dernier. Un prix de 2,3 millions d'euros pour mener ses recherches sur les biofilms bactériens. Ashley Nord, bonjour et bienvenue dans Allume la science.
Bonjour, merci.
Elle a l'élocution sèche et le verbe haut à mes côtés, Aline Perriot. Ça voulait pas sortir.
Bonjour. Bonjour.
En deuxième partie d'émission, dernier reportage sur la plateforme M3P. Et cette semaine, c'est Myriam Doza qui nous fait la visite. Enfin, notre invitée de dernière minute est Ghislaine Besançon, responsable de la com à l'Institut Agro. Elle nous présente la projection débat, du film Bigger Than Us qui aura lieu le 6 février à 18h. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55, 54...
Alors Ashley, vous faites partie des 8 chercheuses et chercheurs lauréates du prix Impulse Science, décerné, alors j'ai dit la Fondation L'Oréal, mais c'est la Fondation Bettencourt, je crois, hein.
Oui.
Je corrigerai. Donc de la Fondation Bettencourt, alors ce prix, il récompense vos travaux sur les biofilms bactériens et en particulier les mécanismes physiques et biologiques de formation de ces biofilms. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est d'abord des biofilms et où est-ce qu'on en trouve?
Oui, très simplement, les biofilms sont des communautés immobiles des bactéries. Ils sont parfois accrochés à la surface, mais pas forcément. Et ils se trouvent partout. Elles sont sur les dents, par exemple. Elles sont sur les bateaux, dans les océans. Et ils jouent un rôle très important dans les infections.
Alors, ce que vous utilisez, vous, en particulier, donc c'est la formation de ces biofilms. C'est une étape qui s'appelle la nucléation. Vous pouvez nous décrire un peu en quoi ça consiste?
Oui, donc il y a beaucoup de recherches avec les biofilms, mais un mystère qui reste, c'est comment est-ce que les bactéries et pourquoi décident de faire la transition entre la vie indépendante et la vie dans une biofilm. Et ça, c'est difficile à observer parce que c'est une transition assez rare. Donc ça veut dire qu'il se passe dans un moment très précis et imprévisible.
Alors, cette organisation sous forme de biofilm, elle présente des intérêts donc pour les bactéries. Quels sont les avantages pour elles?
Oui, pour les bactéries, les bactéries dans une biofilm, ils mènent une vie complètement différente que les bactéries indépendantes. Elles changent leur comportement, elles commencent à communiquer et surtout, elles produisent cette matière collante qui les colle ensemble et les protège. Et cette matière est aussi efficace qu'elle rend les bactéries jusqu'à 1000 fois plus résistantes aux antibiotiques que les bactéries isolées.
Oui,
C'est pas un petit avantage.
Alors du coup, c'est un désavantage pour nous, parce que c'est un point de vue mauvais pour la santé. Pourtant, vous dites aussi que ces biofilms, ils peuvent nous rendre service. Vous pouvez nous dire dans quel domaine?
Oui, ce n'est pas que tous les biofilms sont nocifs. Il y a des chercheurs qui sont en train de créer les biofilms qui peuvent, par exemple, filtrer l'eau, enlever les toxines et même les biofilms qui peuvent être appliqués à les cicatrices pour guérir les cicatrices.
Alors, donc pour observer ces différentes étapes justement de la formation du biofilm, vous utilisez un outil optique donc très performant, l'holographie numérique en ligne, DIH. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que c'est?
Oui, l'holographie, c'est une moyenne de voir un volume en trois dimensions. Simplement, il utilise souvent un laser et la lumière de la laser, une partie va interagir avec les choses dans le volume, par exemple les bactéries ou les particules, mais la grande partie ne va pas interagir avec les choses. Et à la fin, tu vas avoir un motif d'interférence avec cette lumière, ça veut dire un motif de zone claire et zone sombre. Donc, on capture ça avec une caméra et après, on utilise la loi de la physique et comment la lumière fonctionne pour reconstruire ce volume en trois dimensions et savoir qu'est-ce qu'il y a dedans et tous les détails.
Justement, dans une des vidéos qu'on a vues en ligne, on vous voit en train de fabriquer justement un de ces instruments. Vous fabriquez un microscope, c'est ça? Pourquoi vous le faites vous-même? Ça se trouve pas...
Oui, pour ce projet Impulse Science, on veut un microscope très spécial qui est capable de suivre les bactéries en trois dimensions quand ils sont motiles. Et après, de savoir qu'est-ce qui se passe quand il joint le biofilm ou quand il détecte une surface. Cet microscope n'existe pas, donc on a besoin de le construire.
Alors avec ce prix dont on a parlé tout à l'heure, vous avez obtenu 2,3 millions d'euros sur 5 ans pour poursuivre ces recherches et aussi construire ce microscope. Et vous avez un nouveau projet sur lequel vous avez travaillé, sur les aérosols comme vecteur de transmission. On en a parlé en lancement, c'est les postillons. Et vous dites qu'un des défis majeurs, c'est de mesurer ce que vous appelez le processus d'atomisation salivaire. Pourquoi c'est compliqué de mesurer les postillons?
Oui, donc quand on parle, il y a beaucoup de potions qui sortent de la bouche. Ces potions, ils sont petits, ils sont très rapides et ils sont presque transparents. Ça veut dire que c'est sont difficiles à voir. Il y a beaucoup de moyens d'essayer de mesurer ces potions, ces gouttelettes. Nous avons proposé l'holographie comme moyen de voir toutes les gouttelettes en trois dimensions.
Depuis quand on le sait, ça, que les aérosols, ils sont vecteurs de virus? Ça fait longtemps qu'on est au courant de ça?
Bonne question.
Je ne l'avais pas prévu avant.
Ouais. Je crois que ça fait beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps, qu'on avait cette idée que les aérosols peuvent transporter les choses méchantes, les bactéries et les virus. Le proof direct, ça venait plus tard. Mais on sait, par exemple, avec la COVID, on sait que la transmission en aérosol, c'est un moyen assez important.
Donc, et vous, justement, en observant ces postillons donc avec votre microscope, une de vos hypothèses, c'est de dire que les biofilms, elles permettent aux bactéries de rester en vie, en fait, pendant le laps de temps où elles sont hors de l'organisme, où elles sont un postillon, c'est ça?
Oui, donc on sait que les aérosols peuvent transporter le virus, mais le même est vrai pour les bactéries, par exemple avec la tuberculose. Mais il y a cette question ouverte, comment est-ce que les bactéries peuvent survivre à cet environnement? Parce que le moment que les aérosols sortent de la bouche, elles commencent à évaporer, à perdre la liquide. Ça va changer beaucoup la pH, la concentration de protéines et cellules et tout ça. C'est un environnement qui les bactéries n'aiment pas du tout. Donc la question c'est comment est-ce qu'ils peuvent survivre à ça? On croit que peut-être les biofilms peuvent jouer un rôle pour protéger les bactéries.
Mais est-ce qu'on sait si elles se transforment sous forme de biofilms une fois qu'elles sont postillonnées ou si déjà quand on les postillonne, elles sont sous forme de biofilms et ça les protège mieux que les autres?
Aucune idée. Je crois que les deux sont... ça peut passer, mais on va voir.
Et du coup, pour voir justement, vous avez utilisé cette méthode dont vous avez parlé tout à l'heure, l'holographie numérique en ligne. Et en pratique, comment est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez demandé à quelqu'un de parler et de postillonner devant un microscope?
Oui, exactement. Donc, on a construit cette setup avec un laser et une caméra. Et entre les deux, on a mis la tête dans le chercheur et on a dit pas, par exemple. Et la première fois qu'on a vu qu'est-ce qu'il sortait, on était comme « wow, c'est vraiment impressionnant ». Donc, c'est une expérience assez simple pour voir.
Vous lui avez fait lire des textes précis pour voir un peu ce qui se passait en fonction des lettres ou pas?
C'était un peu... on a construit tout ça dans une journée plus ou moins juste pour tester. Et le jour qu'on a compris que ça c'est un outil vraiment... Ça va marcher pour faire les expériences. On l'a fait un peu plus... carefully. Un peu plus...
Précis. Alors justement, donc vous vous êtes intéressé à l'aérosolisation induite par la parole. Donc les postillons... je regarde mon micro bizarrement maintenant. Quel autre type d'aérosolisation existe? Est-ce qu'il y a d'autres moyens de postillonner?
Oui, bien sûr. Le deux moyens qu'on pensait directement, c'est quand on éternue et quand on tousse. Et bien sûr, ça produit des aérosols qui sortent de la bouche et de la nez, aérosols de mucus et de salive. On a enquêté beaucoup de ces aérosols avec COVID. Mais maintenant, on sait que la plupart des infections, c'était avec les personnes asymptomatiques. Ça veut dire qu'avant qu'ils toussaient. Donc, on a commencé de demander est-ce que les aérosols de la parole jouent un rôle assez important ici.
Et du coup, est-ce que vous avez pu remarquer si on était tous égaux face à ce processus d'atomisation salivaire? Est-ce que vous avez pu tester s'il y a des gens qui postillonnent plus que d'autres ou pas? On a cette sensation des fois. Est-ce que c'est le cas?
C'est une très bonne question. On est en train de demander ça maintenant. On demande, par exemple, est-ce qu'il y a une différence entre certaines personnes? Est-ce qu'il y a une différence avec l'âge, avec la langue? Même pour une personne, est-ce qu'il y a une différence avant et après un repas?
Alors, dans votre publication, vous parlez aussi de la plosive P. Alors, on la connaît bien en radio, c'est pour ça qu'on met des bonnettes, pour pas que ça fasse des papapa dans le micro. Cette plosive, vous dites que justement, elle est pire qu'un éternuement. Pourquoi?
Oui, bah, ça c'est quelque chose d'assez intuitif. On sait que si on met la main... après la bouche, on peut sentir les poussions qui sortent. Donc, on a commencé là et après, on va tester tous les autres. Donc, c'est une question ouverte. Quel type de langue ou quelle syllabe peuvent créer des poussions d'une certaine taille ou une certaine vitesse qui sont favorables pour la transmission.
Et ça, avec l'holographie numérique en ligne, vous le voyez justement, cette différence, par exemple, avec les plosives, quand on fait un P, c'est pas la même chose qu'un S, par exemple?
Oui, tout à fait. Pas, c'est vraiment différent que moi, par exemple. Et c'est une différence de le nombre de poussions, la taille de la poussion et aussi la direction qui est importante pour la transmission.
Nous, sur la publication, on a vu les photos, les schémas de ce que ça donne qu'un P, justement, comment ça postillonne. Et vous avez une description un peu particulière. Vous pouvez nous décrire, justement, le mouvement d'un postillon sur un P?
Oui, donc on a vu que quand on ouvre les lèvres, il y a des filaments qui se forment entre les deux lèvres. Et ces filaments, ils commencent à déformer avec l'air qui est expulsé de la bouche. Et cette déformation va jusqu'à un point et à la fin, ces filaments se cassent et ça crée des poussions.
Donc là, vous partez, on l'a dit, vous avez un financement donc, pour 5 ans. Vos premiers résultats, vous savez à peu près quand est-ce que vous les aurez?
Bonne question. On va commencer en septembre. Donc je suis en train de recruter les gens pour faire une équipe qui va être assez diverse avec des biologistes, des physiciens, des experts en optique et programmation et tout ça. Donc j'espère bientôt.
Et est-ce que à terme, à l'issue du projet, dans l'idée, il pourrait y avoir le fait de pouvoir, peut-être en comprenant mieux ce processus, limiter un peu la transmission de ces maladies qui se transmettent par aérosol?
Voilà. Plus le droit au P.
Ça va être sympa. Ah non, pas sympa.
Oui, c'est exactement cette idée. Si on peut comprendre comment et pourquoi les bactéries forment les biofilms, si on peut comprendre si les biofilms jouent un rôle dans la transmission des aérosols, j'espère qu'on peut interagir après et éviter les biofilms ou même encourager les biofilms qui ne sont pas nocifs.
Un grand merci à vous, Ashley Nord. Vous revenez quand vous voulez pour nous présenter vos prochaines publications. Et encore bravo, parce qu'en français, c'était pas simple. Mais c'était très bien.
Merci beaucoup.
Et on passe maintenant à notre séquence reportage. Donc, retour sur le campus de la Gaillarde, sur la plateforme M3P avec Myriam Dozat, chercheuse au laboratoire LEPS. Cette semaine, elle nous fait découvrir Phenopsis, un automate d'irrigation et de prise d'image en chambre de culture qui permet ainsi de suivre le développement de plus de 500 petites plantes.
Alors, donc la troisième plateforme s'agit de Phenopsis. Donc cette plateforme, contrairement aux deux autres qui sont en serre, cette plateforme est en chambre de culture, c'est-à-dire dans un environnement totalement contrôlé où on contrôle la température, l'humidité de l'air, le CO2 dans l'air et la lumière en intensité mais aussi en qualité de lumière.
Et alors, qu'est-ce que ça veut dire psis dans Phenopsis ?
Phenopsis, c'est une plateforme qui a été conçue il y a une vingtaine d'années par les techniciens et les ingénieurs du LEPS qui l'ont pensée et réfléchi. Et au départ, elle a été conçue pour une petite plante modèle qui s'appelle Arabidopsis thaliana, d'où le psis de Phenopsis. Donc phéno, c'est toujours phénotypage, donc l'analyse des caractères que l'on voit sur les plantes, qui sont l'expression du génotype en fait. Et le psis, c'était dédié pour la petite plante modèle Arabidopsis thaliana, donc qui est la souris en fait des végétalistes.
Alors on va rentrer dans la chambre tout à l'heure, c'est ça? Mais pour l'instant on est devant un ordinateur, où vous voyez taper des petites choses. Pour l'instant on dirait un jeu de bataille navale. Qu'est-ce que c'est?
Alors en fait là, ce que vous voyez, c'est le plan de la chambre de culture avec l'automate à l'intérieur et 14 plateaux qui comportent 36 pots chacun que l'on peut inhiber les uns ou les autres ou pas du tout. Quand on clique sur un plateau, on a accès à chaque propriété de chacun des pots. Aujourd'hui, on peut faire autre chose qu'Arabidopsis thaliana dans la chambre. On peut notamment cultiver de la tomate, du blé, du brachypodium, plusieurs autres espèces. Alors évidemment, en fonction de la taille des pots, on rétrécit l'effectif de la plateforme. Donc au lieu de 500 plantes, par exemple, d'Arabidopsis, on va avoir 125 plantes de blé dans des pots de 3 litres, par exemple.
Alors donc là, je l'ai dit, on était dans un petit sas où il y a les ordinateurs. Il y a combien de chambres de culture autour de nous, là ?
Alors, vous avez 8 chambres de culture là dans la pièce. Donc, elles ne font pas toutes partie du LEPS, du laboratoire d'écophysiologie des plantes. Mais on travaille tous un petit peu maintenant sur l'environnement. Et de toute façon, l'intérêt d'une chambre de culture, c'est de maîtriser le climat à l'intérieur et justement d'imposer des conditions particulières et surtout de les mesurer. Vous avez derrière vous un ensemble de capteurs, là, par exemple, de lumière, de température, d'humidité, qui font qu'on a une maîtrise totale de tout ce qui est à l'intérieur de la chambre. Et ce qui est super important pour nous, c'est l'homogénéité à l'intérieur de la chambre de culture, parce qu'on a besoin de savoir qu'une plante qui a une extrémité de la chambre et une autre qui est à l'autre extrémité de la chambre, elle a le même environnement. Sinon, elle ne sera pas comparable et on ne peut pas comparer deux génotypes différents qui ne sont pas dans le même environnement, sauf si bien sûr on a choisi nous l'environnement différent, par exemple la teneur en eau du sol, qui fait que là effectivement on impose nous des teneurs en eau du sol différentes pour chacune des plantes.
Juste avant d'ouvrir la porte, j'ai une petite question. Il y a un panneau où il y a écrit port de lunettes obligatoire. C'est lié à quoi? À la luminosité à l'intérieur des chambres?
C'est lié à la luminosité et notamment au LED. Qui peuvent avoir des longueurs d'onde assez qui sont pas terribles pour les yeux, donc on préfère que les usagers mettent des lunettes surtout quand on a des fortes intensités comme là vous avez une assez forte intensité. On n'est pas habitué dans les chambres de culture à avoir des fortes intensités de lumière, Donc là, on a la possibilité, nous, maintenant, de faire des très fortes intensités. C'est ce qui nous permet d'ailleurs de cultiver de nouvelles espèces comme le blé, par exemple, qui a besoin d'une forte intensité de lumière.
En effet, ça pique. Alors, juste pour petite description, ça fait combien ? Ça fait 10 mètres carrés à peu près comme, comme chambre, quelque chose comme ça ?
6-7 mètres carrés. Voilà, donc c'est une chambre de culture dans laquelle vous avez donc des plateaux avec des petits trous dans lesquels donc sont des alvéoles dans lesquels on met des petits pots. Et puis au fond, vous avez donc l'intérêt en fait de Phénopsis, c'est-à-dire un bras. Sur lequel sont fixées des caméras, puisque là aussi le principe c'est de prendre en photo des plantes. Donc on a divers types de caméras, des caméras dans le visible, des caméras dans l'infrarouge pour par exemple prendre des températures de surface de feuilles, comme quand on vous prend à l'aéroport avec une caméra infrarouge. Voilà, nous on mesure aussi la température des feuilles de plantes, qui est un indicateur pour nous pour voir si une plante transpire ou pas. C'est aussi un indicateur autre que la pesée. Voilà. Et puis donc le bras va se déplacer sur chacune des alvéoles qui a des coordonnées en X, en Y et en Z. Et donc va venir sur une alvéole. Dessous, vous avez un système de balance qui va venir se déplacer en même temps. Et donc la balance va peser chaque pot. Elle va comparer le poids qu'elle trouve à un poids cible que nous, on a imposé. Et puis, ben, un goûteur va venir et va venir arroser la plante et va apporter la quantité de solution. On peut mettre différentes solutions. Va apporter la quantité de solution nutritive ou de l'eau ou en fonction de ce que l'on veut pour compléter le poids et arriver au fameux poids cible pour que la plante et le pot aient atteint son pourcentage d'humidité choisi.
Et j'accueille maintenant notre invité des trois dernières minutes. Bonjour Ghislaine Besançon.
Bonjour à vous.
Donc vous êtes responsable com à l'Institut Agro Montpellier et vous nous présentez aujourd'hui une projection débat du film Bigger Than Us qui aura lieu le 6 février à 18h sur le campus de La Gaillarde. Et ce sera en présence de sa réalisatrice Flore Vasseur. Alors pour commencer, Ghislaine, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce film et de sa réalisatrice ?
Bah écoutez, c'est un film qui a déjà été remarqué par ses nominations à la fois au Festival de Cannes et également au César. C'est un film qui parle de l'activisme, de la jeunesse, qui met en valeur tous les combats autour de la justice sociale, l'urgence climatique, le droit des femmes, l'accès à l'alimentation et l'éducation. Donc ce sont des combats portés par des jeunes activistes qui ont été filmés par Flore Vasseur dans différents pays, dans 7 pays exactement à travers le monde. Et donc Flore Vasseur, elle est à la fois effectivement réalisatrice, romancière. C'est une personne qui s'est très vite intéressée à ces thèmes de société. C'est un engagement qu'elle a également à titre personnel. Et donc elle souhaite à travers ce film porter un message justement pour montrer que la jeunesse se mobilise en tout cas pour réparer le monde, en tout cas essayer de réparer le monde dans lequel nous vivons et dans lequel cette jeunesse évolue. Voilà, par rapport à toutes les urgences qu'il y a aujourd'hui au niveau de la planète, notamment en termes de réchauffement climatique et d'alimentation, pour les thématiques alimentaires.
On comprend que dans un institut agro, effectivement, l'enjeu est fort. Quel est le but pour vous donc en organisant ce type d'événement ?
Bien, écoutez, nous, les cultures sciences, déjà, c'est un cycle de conférences qui s'adresse à tous nos étudiants, à la communauté scientifique montpelliéraine, mais également au grand public. Il porte sur des thématiques qui sont en lien avec nos formations, donc nos grands domaines de formation sur l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Donc, organiser ce type de projection dans le cadre des cultures sciences, c'était ouvrir justement le débat avec les jeunes, avec les étudiants de l'Institut Agro Montpellier et également de l'Université de Montpellier qui est associée à ce projet, pour qu'ils puissent également, au travers des exemples qui sont donnés, parler également eux aussi de leurs engagements, de leur mobilisation et pouvoir aussi apporter dans ce débat des points de vue d'enseignants qui, par leur expérience à l'international, peuvent aussi apporter un éclairage aussi sur la manière dont on traite de ces différentes problématiques à travers la planète. Ça s'inscrit aussi dans le cadre d'un projet qui s'appelle Cohorte Agro au sein de l'Institut Agro Montpellier, qui est un projet de réflexion qui a été lancé justement sur la manière de transformer et de revoir également certains éléments de notre formation d'ingénieur en agronomie, en agroalimentaire, en intégrant dans les parcours de formation justement des éléments de réflexion pour travailler sur les enjeux des transitions socio-écologiques. Donc l'objectif, c'est que nos étudiants puissent aussi acquérir des compétences pour faire face aux défis environnementaux et sociétaux qui les attendent. Donc voilà, c'est un projet aussi Cohorte Agro qui a fait l'objet d'un soutien financier de l'Université de Montpellier dans le cadre d'un appel à projet pédagogique du programme d'excellence ICIT.
Alors, cette projection débat, elle s'inscrit également donc, dans l'opération « Ça commence avec toi », une opération menée dans tous les établissements d'enseignement supérieur. Vous pouvez nous en dire un mot ?
Alors, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur qui mène cette opération en lien avec les établissements, enfin les universités et les grandes écoles. L'idée étant, au vu de cette manifestation, de pouvoir inciter les établissements à organiser ce type de projection dans leur campus pour justement mobiliser les étudiants sur les thématiques qui sont portées à travers le film et surtout les inciter aussi à s'engager et se mettre en mouvement, comme on dit, autour de ces thématiques clés qui portent sur des enjeux cruciaux de la société d'aujourd'hui.
Alors, vous nous avez dit un mot du cycle culture-science. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est ?
Alors, ce cycle, il a été créé, c'était en 2008, si je me souviens bien. C'est un cycle qui est de conférences ou de projections-débats qui s'adresse au départ aux étudiants, mais qui est ouverte, comme je l'ai dit, sur la société, parce que c'est une école qui se veut ouverte sur la société. Donc, on y invite évidemment aussi bien les enseignants-chercheurs que toute personne qui s'intéresse aux thématiques qui sont portées par l'école en termes de formation et de recherche.
Vous en organisez régulièrement ?
Alors oui, tout à fait. C'est au minimum 3 à 4 conférences par an. Il y en a d'ailleurs une ce soir qui se tient sur la viticulture en Méditerranée. Et donc, il y en aura une la semaine prochaine. Et cette année, c'est un peu exceptionnel parce qu'on a beaucoup de propositions en termes de projection débat. C'est-à-dire qu'il y a un film suivi d'un débat avec des enseignants-chercheurs, des étudiants, les réalisateurs du film. Donc, ce soir, on reçoit effectivement Flore Vasseur, qui est la réalisatrice de Bigger Than Us. Mais on la reçoit en visioconférence puisqu'elle interviendra d'un studio qui est à Lyon. Elle n'a pas pu effectuer le déplacement, mais on sera en direct avec elle pour les échanges qui suivront donc la projection de son film.
Donc ça, c'est le 6 février, c'est ça ?
Ça, c'est le 6 février.
Donc 6 février
à 18h.
Voilà, on rappelle. Donc le 6 février à 18h sur le campus de la Gaillarde, c'est gratuit et ouvert à tous. C'est bien
ça ?
Oui,
et les inscriptions sont obligatoires. Mmh. Elles se font via le lien d'inscription qui est indiqué donc, sur notre site internet dans l'actualité dédiée à cet événement,
et on
dans
le mettra,
la rubrique agenda.
On le mettra en lien sur la page du podcast
bien.
Également.
Merci beaucoup.
Je vous remercie beaucoup, Ghislaine Besançon.
C'est moi qui vous remercie.
À bientôt.
À très bientôt. Au revoir.
Au revoir. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Alice Rollet pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science, la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ses mots.
Allume la science.